Bonjour tout le monde, bienvenue à épisode 4 de Québec quoi. Bonjour Charles.
Bonjour, bonjour.
Aujourd'hui, on va vous parler, j'ai quasiment peur de dire les mots, de Omar Khadr. Oui, oui, nous autres aussi, on va parler de Omar Khadr. On ne peut pas laisser le sujet de côté. En fait, une des raisons que moi et Charles, on a décidé qu'on voulait parler de ça, c'est justement parce qu'on trouve étonnant la quantité de gens qui sont indignés, pas contents, qui chiolent, en fait, de qu'est-ce qui s'est passé par cette situation-là. Et je crois que c'est mal expliqué. Je pense que si les gens comprenaient vraiment ce qui s'était passé, c'est une saga qui dure depuis 15 ans, peut-être que les gens auraient une autre opinion.
Je sens que les gens comprenaient peut-être plus la situation ouais. Il y a 2-3 ans, à l'époque où c'était sa petite face de gars de 15 ans qu'on mettait dans les médias,
ouais. Plutôt
que sa grosse face barbue. Hein? J'ai l'impression que l'opinion publique virait de bord assez vite.
Ouais.
Les journalistes s'en sont vraiment pris à cœur joie. Eux autres, ont changé ouais. D'avis. On compare les articles d'il y a quelques années jusqu'à puis on les compare avec aujourd'hui. Le discours, le ton, tout a changé.
Tout, ça a changé de bout pour bout. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'était pauvre. Pauvre Omar Khadr. C'est un peu comme ça qu'on le voyait.
Oui, bien, j'imagine que ça correspondait aussi à... C'était une position qui s'inscrivait en contrepartie de la position des gouvernements conservateurs.
C'est vrai, ça, là.
Ouais. Alors, je pense que c'est une position qui était intéressante politiquement pour beaucoup de gens parce que ça les mettait contre les conservateurs. Puis là, aujourd'hui, ben, les conservateurs ne sont plus vraiment dans l'équation. Ben là, oups, ils changent de discours. Donc, ça m'apparaît plus être de l'opportunisme, encore une fois, que véritablement des convictions profondes.
Mais ça veut dire quoi de nos journalistes? C'est que tout ce qu'ils font, ils se mettent contre le gouvernement qui est au pouvoir. C'est parce qu'il manque quelque chose, là. Il manque d'éthique, il manque de quoi. Je comprends pas, là. Tu peux pas être systématiquement tout le temps contre le gouvernement qui est au pouvoir. On peut bien ne pas être d'accord avec un gouvernement, mais il va quand même faire des choses qui sont correctes. Harper, moi, je l'ai détesté chaque minute qu'il était à Ottawa, mais il y a quand même eu certaines choses où j'ai dû piler sur mon orgueil et dire « Ouais, là-dessus, il avait raison. » Ça arrive. C'est impossible que tu sois tout le temps en désaccord.
Mm-hmm. Ben, de la même façon, personnellement, je ne suis pas vraiment d'accord avec le bilan législatif de l'administration Trudeau, mais je trouve que sa position sur le dossier d'Omar Khadr est la bonne. En fait, oui. C'est celle qui aurait dû être prise il y a très longtemps.
Moi, la critique que je lui ferais, là, c'est que je trouve que sa prise de position n'est pas assez solide. Moi, j'aimerais ça, là, de l'avoir vu. Parce qu'en fait, il n'a pas dit grand-chose. Il a juste dit, écoute, Omar Khadr, on l'a compensé parce que c'était la bonne chose à faire. Mais en quelque part, j'aimerais qu'il aurait vraiment mis un plus de poigne là, dans ce qu'il disait, qu'il s'aurait dit « Écoutez, on est au Canada, c'est nos valeurs, on ne va pas laisser les droits fondamentaux des Canadiens se faire piétiner dessus. Il faut qu'on montre à la planète entière que nos droits, on y tient. » En tout cas, on pourra peut-être en revenir. Je pense avant qu'on s'aventure trop loin, peut-être qu'on va commencer par le début. Je dirais, cette histoire-là, là, ça date pas d'hier. Ça fait 15 ans qu'on entend parler de ça aux nouvelles. Donc, on va retourner en 2002. Qu'est-ce qui s'est passé en 2002?
En fait, c'est le 27 juillet 2002, plus précisément.
Ouais, ça fait exactement 15 ans.
Oui. Omar Khadr, alors âgé de 15 ans, aurait lancé une grenade dans le contexte d'un combat armé en Afghanistan, où son père l'avait amené un peu de temps avant. Donc, selon la Convention de Genève sur les enfants soldats, c'était un enfant soldat. Il était mineur, c'était un enfant. À 15 ans, là,
puis là,
un enfant.
Il a été envoyé là-bas plus jeune que ça.
Oui, oui. Il est arrivé là-bas, je pense, au début de l'adolescence, vers 12-13 ans.
Oui, même moi, j'ai même vu un rapport où il avait été envoyé à 11 ans, son père l'avait envoyé.
Ah, il était très jeune.
Il était très jeune. Fait qu'on s'entend qu'à 11 ans, Tu n'as pas l'intelligence politique assez développée pour être en connaissance de cause puis de vraiment décider que tu t'en vas te battre pour la cause en Afghanistan.
C'est-à-dire qu'à 15 ans, c'est trop jeune pour donner son consentement.
Mais c'est
tout
clair.
Tout simplement.
Tu n'as même pas le droit de signer un contrat à 15 ans, puis là, on va le tenir responsable d'une action dans une situation de guerre qui, en passant, on ne sait même pas si c'est vrai qu'il a lancé la grenade.
Oui, mais il y avait beaucoup de rapports contradictoires.
Il n'y a personne qui l'a vu!
Non, c'est ça. C'est-à-dire que il y avait même des soldats qui disaient « Non, c'était pas lui. » Il y a eu des rapports qui ont ensuite été retirés du dossier. Il y a eu beaucoup de manigances dans cette affaire-là, qui sont d'ailleurs été mentionnées dans les nombreux jugements de la Cour suprême qui vont tous dans la direction de Omar Khader. Mais de toute façon, même si c'est lui qui l'avait lancé, même si c'était lui, ça change rien au fond de la question qui est « Omar Khader était un enfant au moment des faits. La Convention de Genève sur les enfants soldats s'appliquait. C'est un citoyen canadien, alors la Constitution du Canada s'appliquait. » Fin de l'histoire.
Ben oui.
Peu importe ce qui se passe après ça, en ce qui me concerne, la discussion est terminée. On peut pas avoir une... On peut pas appliquer la Constitution à degré variable selon ce qui nous arrange.
Ouais.
C'est pas au premier ministre de décider comment nos droits fondamentaux vont s'exercer.
Puis en fait, c'est même pas le premier ministre qui a décidé. Aujourd'hui, on le sait, la Cour suprême du Canada a émis plein de jugements en faveur d'Omar Khader. Fait que je pense que le premier ministre, il essayait juste d'éviter d'avoir à trop payer. Moi, je pense que si son avocat aurait vraiment voulu pousser, là, c'est pas 10 millions qu'il y aurait eu. Là. Il y en aurait eu bien plus que ça.
Effectivement. Probablement que le règlement hors cours qu'il y a eu... Puis je comprends les gens qui trouvent que c'est un gros montant. C'est vrai. Je comprends leur sentiment d'injustice vis-à-vis les vétérans, qui sont effectivement laissés eux-mêmes, puis je comprends ça, mais c'est un autre dossier.
Mais ça, là, tu peux pas... Ça, c'est comparer des pommes et des oranges. On a un enfant qui a été torturé dans une prison illégale par nos alliés, puis par nous autres mêmes, par le Canada. Oui,
oui. Le SRS...
Puis là, on dit, c'est pas de torture, là, c'est pas juste faire écouter de la mauvaise musique, là. Il a été... torturé des façons les plus atroces.
On va discuter de la torture un petit peu. Ouais. Parce que beaucoup de conservateurs... En fait, j'ai un commentaire d'un conservateur en tête où il mettait le mot « torture » entre guillemets. Comme s'il y avait des formes variables de torture. Alors, en termes de torture, on parle de privation de sommeil, de déplacement nocturne, d'introduction d'animaux dans sa cellule, d'isolement... Juste ça, c'est assez pour rendre une personne très déstabilisée. Ouais. Et évidemment, on rajoute à ça le waterboarding.
Puis il ne faut pas que tu oublies, ils empêchaient le sommeil.
Ben oui, ça.
Ils ne les empêchaient pas de dormir. Ils empêchaient de dormir pendant des semaines.
Oui, puis on l'interrogeait après ça.
Puis ça, là, le manque de sommeil, ça a été étudié. On le sait, quand tu manques de sommeil, tu perds tes facultés psychologiques, capacités cognitives sont affectées. Fait que... Tu peux plus... Il y en a qui manquent de sommeil pendant 2-3 jours, puis ils peuvent halluciner. Fait que, viens me dire que ce petit gars-là...
En fait, il est bon d'avoir toffé aussi longtemps et de garder sa tête.
Puis, je ferai remarquer à tout le monde qu'il n'a jamais dit un mot contre le Canada, cet homme-là.
Du moins pas en public.
du moins pas en public, puis il est plus fort que moi. Parce que, honnêtement, je sais pas si moi j'aurais été capable de me tenir la gueule fermée de la façon que lui l'a fait.
Mm-hmm. Mm. Mais la torture, c'est effectivement... plusieurs de ces soi-disant aveux ont été obtenus sous la torture. Ça vaut rien en droit intérieur, ça vaut rien en droit international, puis ça vaut rien juste sous le plan logique. Parce que si tu fais mal à une personne, si tu la mets dans un état physiologique où elle sent que sa sécurité vitale est en jeu, les gens vont dire n'importe quoi pour que ça arrête. Si tu commences à me torturer, là, tu vas pouvoir me faire dire pas mal n'importe quoi. Ça vaut rien. Ça sert à rien de torturer des gens parce que leurs déclarations ne sont pas recevables comme preuve. On a un bon exemple des effets que la torture a sur une personne. Il y a le regretté journaliste Christopher Hitchens qui s'est prêté à l'exercice du waterboarding. Ça, le waterboarding, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'on te met sur une planche légèrement inclinée. On met un tissu sur le visage et on fait couler de l'eau sur le visage. Ça rentre par la trachée, ça donne une impression de noyade. Et on peut maintenir une personne comme ça dans un état de semi-noyade pendant des heures. Quelqu'un qui sait bien le faire. Alors, Christopher Hitchens était à l'époque un journaliste qui avait pris position en faveur du waterboarding. On disait, parfait, si on peut avoir la bonne information, ça vaut la peine. Alors, mais il s'est quand même prêté à l'exercice, il s'est rendu dans une salle, Il a été waterboardé, ça a été filmé. Allez voir ça sur YouTube. Le gars est tough, là. Il s'est fait waterboarder, mais il avait un petit drapeau rouge dans ses mains. Puis à la seconde où il lâchait ce drapeau-là, l'exercice a arrêté immédiatement. Donc, il y avait un contrôle là-dessus. Ça rend déjà ça plus facile, parce qu'il sait qu'il peut faire arrêter. Ouais. Ils ont commencé, il n'a pas toffé 10 secondes.
Wow.
Et après 10 secondes, là, il était méconnaissable. Christopher Jin est un homme avec beaucoup de charisme et il était hors de lui. Après 10 secondes de waterboarding.
Fait, imagine, hein? des journées au complet pour Omar Khadr.
Avec la complicité du SRS, qui sont les services de renseignement secrets canadiens, c'était une honte. Et la Cour suprême est allée dans ce sens-là, dans ses nombreux jugements qu'il y a eu là-dessus. À date, il y en a, je me mémoire est bonne, il y en a eu trois. Trois jugements de Cour suprême. Puis ça, c'est important, parce que la Cour suprême, c'est l'institution qui s'assure que nos droits et libertés prévus par la Charte sont respectés et appliqués. Autrement, on est dans une république de bananes.
Mm-hmm.
Autrement, ça revient à l'arbitraire de l'État. On remet ça entre les mains du premier ministre qui, selon ce qui l'arrange le mieux, va pouvoir choisir. Non. Ça peut pas marcher comme ça. La Cour suprême était en fait très dure à l'égard des autorités canadiennes là-dessus. Ici, je veux juste vous donner une citation. Le Canada a activement participé à un processus contraire aux obligations internationales qui lui incombent en matière de droits de la personne et a contribué à la détention de Khadr de telle sorte qu'il a porté atteinte au droit, à la liberté et à la sécurité de la personne que lui garantit l'article 7 de la Charte. Et ce, de manière incompatible avec les principes de justice fondamentale. C'est pas des mots légers, là. Non. C'est lourd.
C'est très lourd, puis c'est très clair. Il n'y a pas de peut-être ou on n'est pas sûr. C'est clair. On a manqué à les principes de justice fondamentaux au Canada. Je trouve que c'est grave. Parce que si ensuite on ne fait pas de réparation, si on ne montre pas que oui, on a fait une erreur, puis on l'a corrigé en donnant X de compensation. On n'a pas d'autres moyens. De quel autre moyen on peut montrer que on fait un acte de contrition envers Monsieur Khadr pour essayer de pallier à ça. On n'a pas d'autres moyens. On peut pas enlever les années de torture qu'il a vécu. Mm-hmm. On n'a pas de DeLorean pour aller dans le passé puis aller à Gitmo puis dire « Hey, non, c'est correct, là, on va le prendre, nous autres, reviens-t'en au Canada. »
Le jeune a été très maltraité.
Oui,
absolument. Ça contrevenait à tous les accords nationaux sur les enfants soldats, sur la détention des prisonniers, ainsi qu'à la Constitution du Canada. C'est pour ça que c'est le gouvernement canadien qui paye, c'est pas les États-Unis. C'est parce que c'est un citoyen canadien dont les droits ont été enfreints par le Canada.
Absolument.
Et on a manqué notre obligation de le rapatrier. Obama voulait fermer Guantanamo et voulait vider les prisons. La plupart des autres pays ramenaient leurs prisonniers, mais Harper s'est entêté.
En 2002, c'était encore Jean Chrétien.
Oui, c'est ça. Ça
a commencé avec Chrétien. En 2002, c'était Jean Chrétien.
Ça a continué avec Paul Martin.
Il a été premier ministre Jean Chrétien jusqu'en 2003. Après, ça a été Paul Martin, de 2003 à 2006. Fait que là, qu'on parle des quatre premières années de toute cette saga-là, c'est les libéraux de Jean Chrétien et de Paul Martin qui ont fait un peu fi de ce qui se passait à Gitmo.
On sait depuis août 2005... Il y avait un jugement de la Cour fédérale qui disait que les agences canadiennes, les agences de renseignement, avaient violé les droits d'Omar Khadr.
Ouais, ben ça.
Déjà en 2005, on le savait.
À ce moment-là.
C'était Paul Martin.
Paul Martin, il aurait dû mettre ses culottes puis faire rapatrier. Mais il a été rapatrié à un moment
donné. Oui, parce que la Cour suprême a émis une ordonnance de le rapatrier. Évidemment, la Cour suprême n'a pas. Je suis pas un juriste de haute voltige, mais la Cour suprême n'a pas autorité de dire au gouvernement précisément quoi faire. Mais elle a émis une directive qui disait qu'il faudrait qu'il soit rapatrié. Ouais. Et c'est un peu ça le règlement qu'il y avait suite au jugement de 2010. Omar Khadr a été rapatrié. Puis ensuite, il y a eu une autre bataille pour savoir où est-ce qu'il allait être détenu. Dans une prison en sécurité maximale. Là, lui, il a plaidé qu'il voulait être ramené dans une prison provinciale qui était un peu plus smooth, mm-hmm. plus agréable un petit peu. Puis là, éventuellement, il a pu être libéré. Ben écoute, okay. En comparaison, il y avait bien des affaires qui sont agréables, hein, par rapport à Guantanamo.
Je pense que n'importe quoi est plus agréable que Guantanamo. Ouais.
Mais fait, Omar Khadr, son avocat, se bat depuis longtemps pour qu'il puisse avoir un traitement juste. Parce que les gens qui l'accusent de terrorisme, je sais pas comment ils font. Il n'y a jamais eu de procès.
Ben, il y en a eu un procès illégal.
Ben, non, son procès n'a jamais eu lieu.
Ben oui, mais il y a eu la cour militaire américaine qui l'avait quand même adjugé comme étant responsable de la mort du soldat.
Oui, ben ça, c'est quand il avait accepté de plaider coupable. Parce qu'il avait compris à ce moment-là qu'il n'y aurait jamais un procès juste.
Oui, c'est ça, mais c'est clair.
Avec ce procès-là, moi, je ne le compte pas vraiment comme un procès.
Mais moi non plus. Moi je trouve que c'est une cour complètement absurde. Mais c'est ce procès-là que les gens qui sont si outrés par toute cette histoire-là d'Omar Khadr, qui n'arrêtent pas de citer comme étant que c'est un procès, c'est un terroriste. Il a été jugé par la cour. Non, il n'a pas été jugé par la cour. C'est une cour illégale. On le sait maintenant. C'est pour qu'un jugement soit acceptable, moi, je considère qu'il faut que la cour en soi, qu'elle suive ses principes de justice. Puis on le sait que ça, c'était pas des principes de justice. Ça a été probablement plaidé coupable sous l'effet de la torture. Je peux pas imaginer, tu sais.
Mais c'était que je pense qu'il y avait un peu de stratégie juridique à travers ça. Omar Khadr avait peu accès à ses avocats. Il avait peu accès à des conseils. Il avait peu accès à des gens pour le supporter, pour le guider. Mais éventuellement, je pense que plus vers la fin des années 2000, il y avait un peu plus accès à son avocat. Puis là, on lui a dit, plaide coupable, puis on va essayer de te rapatrier au Canada, puis d'avoir quelque chose qui est un peu plus facile à gérer. Parce que c'est quand même plus facile de travailler en droit canadien au Canada qu'avec une prison militaire.
Oui. Ou ce qu'en fait, t'as pas
d'autorité. Fait qu'il y avait une part de stratégie qui était bien exécutée, qui s'est fait vraiment dans la durée, parce que c'est des procédures longues, compliquées, et franchement, l'avocat d'Omar Khadr était d'une patience assez inouïe envers le gouvernement pour garder son calme à travers tout ça.
Mm-hmm.
Moi, je suis ce dossier-là depuis quand même un certain temps. Je suis un peu étonné d'en entendre parler, puis je suis content que finalement le gouvernement du Canada rétablisse sa réputation, parce qu'on avait mangé une volée sur le plan réputationnel, là. Parce que tous les autres pays rapatriaient leurs détenus de Guantanamo, sauf le Canada.
Oui, mais là, notre réputation, si les députés de l'opposition n'arrêtent pas d'aller aux États-Unis pour se faire aller la margoulette sur Fox News...
ouais, les conservateurs ont mis une campagne de pub là-dessus, je comprends pas.
Ça n'a aucun sens. Voilà, je trouve, ça me répugne. Ça me répugne qu'on tombe dans la partisanerie sur une question de droits fondamentaux puis de droits de constitution canadienne. Ces gens-là là, qui sont élus au Parlement, ça devrait être les premiers défendeurs de la Constitution. Puis là, la petite madame s'en va à Fox News sur... Turner, machin, truc, je me souviens plus du nom de son émission. Cette émission-là, c'est une des pires. En plus, dans Fox News, où ça tombe dans le populiste, il invente n'importe quoi.
Il y a beaucoup d'opportunistes, comme on le disait plus tôt. Les politiciens font du millage là-dessus. Dans les dernières années, on pouvait dire « c'est un terroriste », puis on s'en occupait pas.
Ouais.
Mais aujourd'hui, on dirait que ça passe, puis les journalistes sont complaisants là-dessus, puis on a un bon exemple. Quel exemple! Moi, je me garde des traces d'articles intéressants dans le temps, puis quand les journalistes changent d'idée en cours de route, c'est intéressant. Parce que c'est fun de voir son parti de quelle position, sont allés vers laquelle, puis pour quelle raison. Puis on a un bon exemple en la personne de notre vaillant Richard Martineau.
Richard Martineau. Si j'avais un mot à te dire aujourd'hui, ça serait hypocrite. Déjà que ce monsieur-là, qui, dans le contexte de sa belle chronique du Journal de Montréal, je le trouve répugnant plus qu'autre chose. Dans le cas de Omar Khadr, je le trouve complètement inexcusable. Le jeudi 7 mai 2015, il a écrit un article pour le Journal de Montréal où ce qui comprend pas pourquoi le gouvernement Harper s'opposait tant à la libération d'Omar Khadr. Fait que là, il fait tout un blablabla sur comment que c'est inacceptable, en fait, que c'est un enfant soldat. En fait, je vais le citer, là, parce qu'il y a quand même... C'est quand même fort, ce qu'il dit. Puis là, je cite Richard Martineau le jeudi 7 mai, dans le Journal de Montréal. « C'était un enfant soldat qu'on avait exploité, endoctriné, brainwashé. Va-t-on enfermer tous les enfants soldats du monde? Ces enfants que des adultes sans foi, ni loi, ou alors avec beaucoup trop de foi, envoient au front pour faire leur sale boulot, sont des victimes, non des bourreaux. Ils traitent Omar Khadr d'une victime. » Puis je pense qu'il a raison.
Oui, mais à savoir, là, comme on en discutait un peu plus tôt, c'est de savoir, est-ce qu'il pense ça parce qu'il pense vraiment ou parce que ça lui permettait de s'opposer au gouvernement Harper? C'était à la mode dans le temps. Hein?
Ah, mais regarde qu'est-ce qu'il a publié le 12 juillet 2017. Le titre de l'article, encore une fois, dans le fabuleux Journal de Montréal. Khadr, un enfant soldat? Vraiment? Point de question. Et la citation qui m'a vraiment fait grimper des rideaux, puis je te remercie, Charles, de m'avoir envoyé ces beaux articles-là. C'est, ça a fait ma semaine.
J'aime ça te faire chier.
Tu fais une crise de bonne job.
C'est un plaisir chaque jour renouvelé.
Puis là, je cite Richard Martineau encore. « Si le fils d'Al Capone avait décidé à 15 ans de se joindre à l'entreprise criminelle de son père, aurait-on dit qu'il était un pauvre enfant gangster qui a enlevé contre son gré et endoctriné par des étrangers? » Non, on aurait dit qu'il était l'héritier d'un empire criminel, le digne successeur de son père, un caïd endurci et déterminé qui a choisi avec fierté de marcher dans les traces de son paternel. Je ne comprends pas. Moi, ça... C'est quoi, là? Puis je pense que tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est juste pour s'opposer au gouvernement qui est au pouvoir.
Ouais, c'est à la mode de s'insurger.
C'est vraiment la mode. En fait, on s'insurge un peu aujourd'hui.
Ça dépend. S'insurger pour défendre des principes de justice fondamentale, à mon avis, c'est une bonne raison de s'insurger.
Ouais.
Puis c'est important parce que c'est pas juste Omar Khadr. En réalité, lui, dans le grand ordre des choses, il est pas important. Ce qui est vraiment important, c'est les idées qu'il sous-tend. C'est-à-dire, est-ce que l'État peut suspendre tes droits et libertés en tant que Canadien selon ce qui l'arrange politiquement? Puis ça, c'est important parce que c'est... Écoute, même, tu sais, une personne, là, tu vois quelqu'un dans la rue, là, il est petit, il est laid, il sert à rien, il est désagréable, mais il a quand même de la valeur en tant qu'individu. Mm-hmm. Il y a une étincelle, là, à l'époque, on a une étincelle de divin en lui qui fait en sorte que ça lui garantit... Non, mais c'est ça le principe, là, notre système de droit est largement basé sur le droit canonique.
Je le sais, mais ça me fait rire pareil.
Non, je comprends. Mais le point, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui rend cette personne-là digne du respect de ses droits. Les droits n'existent pas en réalité. Non, tu vois, la nature, c'est fictif. Ça n'existe pas.
Parce que quand on vivait dans des cavernes...
Il n'y avait pas de droit.
Il n'y avait pas de droit.
Non.
C'était la loi du plus fort.
C'est une idée invraisemblable. En fait, c'est quasiment improbable.
C'est contre nature, oui, quelque part.
Que tu arrives en disant, toi, tu as de la valeur, peu importe tes défauts, peu importe ce que tu fais dans la vie, même si je ne t'aime pas, tu as quand même des droits. Ouais. Quelle idée invraisemblable. Ça a commencé en 1215 avec la Magna Carta britannique. C'est une idée quand même qui est récente puis qu'il faut protéger parce que sinon, on n'est pas très loin de la barbarie. Si tu enlèves ça, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus d'état de droit, puis à ce moment-là, ben, c'est free for all. La Constitution canadienne n'a pas, la qualité littéraire de la Constitution américaine rédigée par Thomas Jefferson, qui est un texte remarquable. Et que la Constitution canadienne était même un peu plate en comparaison. C'est un texte administratif qui dit « Toi, t'as le droit de faire ça. Toi, t'as le droit de faire ça. Puis moi, je vais faire ça. » Ils se sont partagés les pouvoirs, c'est un petit peu plate. Mais au moins, les gens, là, allez lire là, au moins le début. Les articles 1, 2, puis 7 à 15, là, c'est ce qui vous permet d'exister en tant que Canadien dans le monde. Puis ces libertés-là sont protégées par un texte. Puis ce texte-là est honoré et protégé par les tribunaux. Et les tribunaux s'opposent au gouvernement. Et c'est important qu'il y ait une distance entre l'appareil judiciaire et le pouvoir exécutif. Parce que sinon, on arrive dans une dictature.
Mm-hmm. Puis je pense que c'est justement pour ça que c'est important de bien comprendre là, que Omar Khadr, que ce soit un barbu, qu'il ait la peau brune, on s'en fout. Sa valeur reste la même au niveau de la Constitution canadienne.
Oui, il y avait des droits.
C'est une bonne chose que notre gouvernement est capable de mettre ses culottes puis de négocier, en fait, une entente monétaire pour mettre fin, une fois pour toutes, à tout ce processus-là. Parce que ça garantit que moi, Gabriel, puis toi, Charles, puis vous autres qui nous écoutez, que nous aussi, on a la protection du gouvernement canadien.
Mm.
Puis c'est pas rien. On s'entend, là, le 10,5 millions là, pour le gouvernement canadien, ben, comme on dirait chez nous, c'est un pet dans le vent. Ils vont même pas le sentir dans le budget, là. OK? Puis si on le divise...
Surtout Trudeau, avec ses déficits.
Ben oui, c'est... Puis en plus, si qu'on le divise, on est combien de Canadiens, là? 40 millions quasiment, là? On va arrondir. 40 millions. Ça veut dire, là, on paye quoi? 50 cents chaque, même pas 10 cents chaque.
Mais c'est-à-dire qu'Omar Khadr, c'est un cas d'espèce.
Mais oui.
C'est un cas qui cristallise tout ce que la Constitution représente. Et notre échec face à ce cas-là doit être réparé.
Absolument. Et
le Canada aurait sans doute perdu haut la main.
Mais c'est clair.
dans un tribunal. Parce qu'il y avait une poursuite contre le gouvernement du Canada.
Mais ça, c'est ça qu'on dit pas dans les journaux. Là. C'est comme si, que magiquement, Omar Khadr avait sonné au 24 rue Sussex.
T'as une belle enveloppe.
Hey, Trudeau, man, what's up? Trudeau, il avait slip. Donné une petite enveloppe brune en dessous de la porte. Il dit, ça, va-t'en, mon sacrament, je t'en ai tout. Non, il y avait une poursuite judiciaire.
Ça s'est réglé en cours.
Puis comme ammunition, il y avait 3 jugements en sa faveur de la Cour suprême. De la Cour suprême!
Le gouvernement n'avait pas un bon case là-dessus.
Il aurait perdu. Il aurait perdu, mais d'aplomb. Puis
tu veux pas avoir un jugement qui fait jurisprudence là-dessus, là?
Ben, hey!
Tu veux pas avoir un jugement contre toi?
Peux-tu imaginer... Non.
Parce que la jurisprudence, là, c'est à vie ensuite. Là. Nous, on se base...
Non, c'est plus qu'à vie, c'est vitam éternel.
Ah, c'est ça, avec l'élocution latine. Mais tu vas aller les jugements de la Cour suprême, on va des fois te sortir des jugements d'Angleterre du 19e siècle. Jurisprudence, là, c'est jurisprudence. Ouais. Ça reste dans les archives, puis ça peut être cité ensuite. Puis la dernière chose que le gouvernement canadien voulait, puis que nous-mêmes, on devrait vouloir, c'est que ce dossier-là se soit pas réglé.
Ouais.
De façon consensuelle.
On va sauver du cash. Parce que c'est sûr que dans une poursuite, moi, je suis pas mal certain qu'il y aurait pu avoir beaucoup plus que 10,5 millions.
Oui, probablement.
Puis là, on parle pas des coûts de la Cour. Mm-hmm. Puis combien de temps que ça aurait duré, cette affaire-là?
Là, finalement, on peut tirer... Du moins, j'espère qu'on peut finalement tirer un trait sur cette histoire-là. Puis les gens bien émotifs là-dessus vont finalement pouvoir... passer une autre histoire. Ils vont pouvoir nous pleurer une rivière, construire un pont, passer au-dessus, hein, puis aller pleurer sur une autre affaire.
Ben, le gars de Linkin Park est mort. Là. ils vont pleurer le gars de Linkin Park aujourd'hui. Ben Charles, c'est le temps pour le commentaire de la semaine.
Oh yes.
Oh yeah. Cette semaine, il s'est passé quelque chose à Saint-Apollinaire. Le fameux référendum pour le cimetière musulman. Oh boy! Encore les musulmans dans les nouvelles. On aime tout ça, des musulmans dans les nouvelles. Ben, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un référendum à Saint-Apollinaire pour savoir si on allait permettre ou pas d'ouvrir un cimetière musulman dans la région de Québec, spécifiquement à Saint-Apollinaire. Il n'y en a pas dans cette région-là. Puis c'est un problème pour les musulmans parce que dans leur coutume, quand quelqu'un est mort, ils se doivent d'enterrer leur bien-aimé rapidement. En général, il faut que ça soit fait dans les 24 heures qui suivent la mort. Et comme dans les cimetières chrétiens, la majorité au Québec, on prend des congés la fin de semaine, puis des congés de Pâques, puis des congés de ci, puis des congés de ça, on n'est pas tout le temps ouvert. Puis ça peut causer des problèmes. Et spécifiquement, ça a été un problème lors de la fusillade qu'il y a eu dans la mosquée à Québec. C'était-tu l'an dernier? Ça fait pas si longtemps que ça. Récemment, la fusillade à Québec. Ces gens-là, quand ils ont été décédés, il n'y avait pas d'endroit pour les mettre. Puis plusieurs ont été repatriés dans leur pays d'origine. Moi, je trouve ça déplorable que les gens qui sont en deuil, en plus de dealer avec le deuil, qu'il faut qu'ils renvoient leur gens en Algérie ou au Maroc, ou peu importe là, d'où ils viennent, juste parce qu'on n'a pas un cimetière à leur prêter. Donc, il y avait plusieurs articles sur Facebook assez intéressants. Moi, on va s'épargner le vitriol et la ire de tous les Québécois qui ont commenté sur ces articles-là, mais il y a un commentaire qui m'a particulièrement frappé, c'est celui-là de J.P. Latour. Honnêtement, je n'ai rien contre l'islam et les musulmans. Je suis juste plus capable d'en entendre parler. On n'entend parler que d'eux, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Les Chinois, les Vietnamiens, les Européens, on en a à la pelletée aussi au Québec. Mais jamais on ne parle d'eux. Pourquoi? Faites donc ce que vous voulez, pour de vrai, je m'en fous. Je cessez de prendre en otage l'espace public et médiatique. Puis là, je pense qu'il s'adresse aux médias. Il doit bien avoir d'autres choses intéressantes à dire sur d'autres communautés à un moment donné. Puis là, je pense qu'il a raison. Il faudrait qu'on arrête de systématiquement mettre les musulmans comme ça dans les nouvelles pour la moindre petite chose. Il y a d'autres choses au Québec. Je pense qu'on peut... Peut-être que si on en parlait d'une autre façon, tu sais, il n'y a pas juste ça, il n'y a pas juste le négatif. Fait que cette semaine, mon commentaire de la semaine, ça va à J.P. Latour. Je doute que tu nous écoutes, mais si tu nous écoutes, bravo. Moi, j'aime ton commentaire.
Je suis très content que ce soit finalement réglé avec Omar Khader. Puis surtout, juste pour remettre les gens en contexte, là, c'est pas rare qu'il y ait ce genre de compensation-là pour des erreurs judiciaires. Mm-hmm. Il y a eu des cas de gens condamnés par erreur, puis ont passé 30 ans en prison, puis à leur sortie, ils recevaient d'une façon ou d'une autre une compensation financière. Finalement, on peut tourner la page sur cette histoire-là. Mm-hmm. Puis ça a été fait plus dignement que si le gouvernement s'était battu pour un soi-disant principe jusqu'au bout, puis ça s'était soldé par un autre jugement en Cour suprême. Là, finalement, on peut tourner la page. Ouais. Je suis pas d'accord avec plein de choses du gouvernement Trudeau, mais je trouve que là, il s'est comporté comme un chef d'État.
Tu vois, vous voyez tout le monde, hein? Charles est capable de dire que Trudeau, il a fait quelque chose de correct.
Oui, il faut rendre à César ce qui va à César.
Absolument. Fait que sur ce, mes amis, je vous remercie encore une fois d'être avec nous autres. Je vous rappelle, si vous voulez laisser des commentaires, nous envoyer promener ou nous dire comment on est merveilleux, vous pouvez passer par notre site web québecquoi.ca. Il y a de la place pour commenter, il y a de la place pour parler, il y a de la place pour nous écrire. C'est votre page. Laissez-nous savoir ce que vous pensez. On apprécie toujours les commentaires. Fait que merci beaucoup, Charles. À la prochaine fois.
Oui.
Bonne semaine tout le monde.